Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Le divorce est consommé entre les médias publics et Twitter. C'est l'hécatombe. La semaine dernière, la radio américaine NPR annonçait qu'elle cessait de publier sur le réseau social. Hier, le groupe CBC Radio-Canada lui a emboîté le pas. Et ce mardi, eh bien, c'est au tour de la radio suédoise SR. En cause, la nouvelle politique de Twitter. Twitter racheté à prix d'or par le milliardaire Elon Musk il y a 6 mois. Dès lors, faut-il quitter Twitter ? Voilà la question qu'on pose ce soir. Quel risque de dérive pour le réseau social ? Est-ce que le bateau peut tanguer ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à toutes ces questions, nos 3 invités, d'abord à mes côtés en studio, Joël Toledanao, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du Conseil national du numérique, professeur émérite d'économie et associé à la chaire gouvernance et régulation. Face à vous, Olivier Lascar, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir et votre livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science ». Notre 3e invité est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Julien Pillot.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur en économie et stratégie numérique à l'école de commerce INSEC. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, on va faire du pédago, Olivier Lascar, pour que nos auditeurs comprennent bien qu'est-ce qui se passe entre Twitter et les médias publics. Pourquoi les uns après les autres, ils décident ainsi de claquer la porte du réseau social ?
Alors, il y a une crise qui couvait depuis que Elon Musk a racheté Twitter. La pierre d'achoppement, c'est sur différentes questions. Jusqu'à présent, quand on était un média officiel ou une personnalité publique, on avait droit à un petit macaron bleu, un petit signe qui permettait de dire qu'on était bien celui qu'on prétendait être. C'était quelque chose qui arrivait gratuitement. Qui était sur la seule décision du réseau social. Musk a décidé d'inverser la pratique en disant maintenant n'importe qui pourra avoir ce petit macaron, mais il faudra payer pour ça.
$8.
Alors ça arrive là, hein, ça arrive très prochainement.
Oui, c'est prévu, Elon Musk a dit que c'est la certification payante à partir de jeudi.
C'est ça, c'est le jour du lancement de sa super fusée, le Starship. Ouais. Une coïncidence qui n'en est certainement pas une. Donc ça, c'est un premier problème parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel mauvais plaisant qui aura envie de déverser n'importe quoi sur Twitter peut se payer le macaron. Ça veut même dire que quelqu'un qui prend comme nom New York Times, ouais, alors qu'il ne l'est pas du tout, peut s'offrir le macaron, alors que dans le même temps, le vrai New York Times ne le fera pas. Ouais. Premier problème. Le second, c'est que Musk, dans sa pratique très muskienne du pouvoir, très polémiste, prend de haut tous les médias publics en les qualifiant d'une formule qui veut dire c'est des médias de propagande, quoi. Ouais. Hein, c'est des médias financés par l'argent public, donc c'est des médias de propagande.
Ouais, c'est un média affilié au gouvernement, en tout cas c'est pour le média américain NPR, média financé par de l'argent public, accolé au compte de la BBC. Pourquoi il accole ces mentions-là aux médias ? Il a quoi contre les médias, Musk, actuellement ?
Alors, il prétend depuis longtemps que les médias contrôlent la parole publique et ne disent que ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils sont dans la doxa, qu'ils sont dans la parole woke, comme on dit maintenant, et qu'il faudrait qu'il y ait des personnes comme lui pour déverrouiller la parole, pour faire en sorte que la liberté d'expression puisse réellement se développer sur la place publique. Et la place publique numérique aujourd'hui, bah, c'est Twitter. Faut peut-être dire en quelques mots d'ailleurs ce que c'est que Twitter, parce que ça n'a pas forcément de soi. Hein. Twitter, un réseau social qui, à la base, a été construit comme une sorte d'émetteur d'SMS. C'est des messages très très courts. Ça s'est développé avec le temps, c'est-à-dire qu'en plus du message très court, on peut mettre des liens à cliquer, on peut mettre de la photo, on peut mettre de la vidéo. Et c'est devenu aujourd'hui, non pas le réseau social qui a le plus de succès au monde, parce qu'au contraire, quand on regarde les chiffres, Twitter, c'est plutôt un nain face à Instagram, face à Facebook.
250 millions d'utilisateurs quotidiens,
c'est
tout de même.
Un nain costaud, mais il fait pas...
quelques milliards de chiffre d'affaires seulement, par rapport à d'autres, vous mettez des zéros derrière.
Et on va évoquer l'enjeu de la financiarisation, ce qui est important.
Mais c'est devenu le réseau social préféré des... des entreprises, des hommes et des femmes politiques, des personnalités publiques. Donc, c'est devenu un instrument de communication, l'instrument préférentiel des, entre guillemets, les grands de ce monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voir ce réseau social aux mains d'un olibrius comme Musk, évidemment, ça pose question.
Joël Toledano.
Moi, je m'interroge au fond sur l'histoire qu'il faut raconter. Est-ce que l'histoire qu'il faut raconter, c'est celle effectivement politique, telle qu'on est en train de la raconter? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un bout d'histoire économique? Parce qu'il ne nous a pas habitués à faire des choses juste dans des... juste que pour des raisons idéologiques.
Alors souvent, il a soulevé un point à la fois politique, effectivement, avec les médias affiliés au gouvernement, et économique aussi, avec la certification désormais payante.
Oui, mais pourquoi? Pourquoi et où est-on? Si vous voulez, alors, l'histoire de Twitter, c'est effectivement l'histoire de ce qui est devenu un média de microblogging qui, à la fois, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs et souvent des utilisateurs qui font quelque part le buzz, mais par ailleurs, il était arrivé à une sorte de situation où il faisait ni profit ni perte, si on fait la moyenne, il y a eu des... etc. Et au tout début de l'histoire, quand Elon Musk a dit qu'il s'intéressait à Twitter, c'est ça qui est très fascinant et qui renvoie aussi probablement peut-être au mythe d'Elon Musk. Au tout début de l'histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, tout ça va très vite, on a dit Elon Musk est un génie, il veut racheter Twitter parce que lui sait que dans Twitter, il y a une valeur extraordinaire grâce aux données. Il va pouvoir faire cette fameuse application derrière laquelle tout le monde rêve, qui est une application où on fait tout comme les équivalents chinois. Et puis, on a eu pendant plusieurs mois cette histoire où on s'est rendu compte après, il s'est mis à contester les chiffres qui étaient donnés par Twitter. Il a dit « je ne veux plus acheter », puis il a été obligé d'acheter. Enfin, c'est un roman, cette histoire. Et maintenant, après avoir licencié grosso modo 2/3 du personnel, avoir perdu une partie, quelques pourcents de son chiffre d'affaires, parce qu'il y a des
pas mal de pourcents. Aujourd'hui, on estime que Twitter vaut 20 milliards de dollars. Il l'a acheté 44 milliards il y a 6 mois.
Je vous parlais de son chiffre d'affaires.
D'accord.
Je vous parlais pas de la valorisation. La valorisation est quelque chose qui évolue quand même beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. Donc, il a perdu un certain nombre de clients, probablement pour les mêmes raisons que ce qu'on est en train d'en voir du côté des médias publics, c'est-à-dire l'image, ce qui est en train d'évoluer. Mais on peut se poser une question au fond. Face à cette entreprise qu'il a achetée sûrement très cher,
44 milliards.
Il semble être en train de chercher à modifier le modèle économique. Si j'avais une image, moi je me demande un peu s'il ne se dit pas « je vais gagner plus d'argent avec quelque chose qui ressemble à Fox News plus qu'à NBC ou PBS, etc. » C'est-à-dire que, certes, vous avez tout l'aspect idéologique, mais on peut s'interroger sur la façon dont il espère retomber sur ses pieds. Je ne crois pas qu'il a très envie de perdre des dizaines de milliards. Et je me demande s'il n'est pas en train d'essayer. Va-t-il réussir? C'est une autre affaire. Par rapport à une situation qui s'est dégradée, et par rapport aux clients, et par rapport à la pub, à se positionner sur un modèle économique plus polémique, plus partisan, dans lequel les discours, effectivement, sur la liberté d'expression n'ont pas toujours la même signification que celle que nous donnons, nous, à la liberté d'expression.
Parce que lui, il prône, on le dit libertarien, Elon Musk, qui prône une liberté d'expression
donc,
sans limite.
Enfin, très honnêtement, je ne sais pas choisir, mais je me demande vraiment si tout ça n'est pas assez largement destiné à provoquer une certaine communication autour et à attirer tous les gens et tous les polémistes et tous ceux qui, effectivement, Fox News est quand même le réseau qui, je crois, gagne le mieux sa vie aux États-Unis aujourd'hui.
On va parler de l'Infox aussi, mais Julien Pillot, cet aspect économique, vous qui êtes enseignant-chercheur en économie, est-ce que Twitter aujourd'hui n'est plus que un enjeu financier pour Elon Musk? Est-ce que ça pose la question de la concentration d'un réseau social qui n'est pas qu'une marchandisation de la part d'un patron qui possède SpaceX, qui possède Tesla, qui est un des hommes les plus riches du monde?
Alors effectivement, déjà je voudrais m'inscrire dans la suite logique des propos de Joël Toledano, puisque je crois effectivement qu'elle a mis le point sur quelque chose de très important et de très intéressant. Il n'est pas impossible effectivement qu'on soit en train de vivre, chaque jour que Dieu fait, une espèce de transformation de business model et qui passe par un remodelage d'un réseau social qui, dans quelques années peut-être, s'il existe toujours, ne ressemblera plus du tout à celui qu'on a connu ces dernières années. Effectivement, quitter Twitter, c'est un challenge en fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, il y a trois dimensions à étudier. Quitter Twitter, c'est pas si simple que ça si vous êtes un utilisateur. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a de fortes chances que si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter, vous ayez une communauté d'intérêt qui elle-même est présente sur Twitter. Et si vous êtes présent sur Twitter et vous ressentez cette utilité d'être présent sur Twitter, c'est parce que cette communauté est présente. Elle sert à relier vos informations et elle sert également à vous informer vous-même. Sauf à trouver un réseau social alternatif qui aujourd'hui n'existe pas avec la qualité des interactions que l'on peut quand même néanmoins trouver sur Twitter, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à changer de réseau social. Donc on a vu arriver des alternatives telles que Mastodon, par exemple, comme Syntekel. Bon, pour l'instant, ça a fait un groupe shit dans la mesure où, effectivement, très peu d'utilisateurs réguliers de Twitter a été suffisamment incité à quitter le réseau social pour tenter une aventure sur une autre application. Les annonceurs, de leur côté, qui représentent aujourd'hui l'essentiel et la quasi-totalité en fait, des revenus de Twitter, eux, quelque part, ont plus d'alternatives. Ils pourraient très bien dire, bah, écoutez, à côté de Twitter, il y a d'autres réseaux sur lesquels je peux faire de la réclame digitale. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a les liens sponsorisés de Google. Pas de problème, je peux me passer de Twitter. Sauf qu'encore une fois, si vous voulez l'audience qualifiée qu'il y a chez Twitter, avec des CSP+, avec les influents de ce monde, ben vous avez peut-être besoin, malgré tout, d'être sur Twitter, raison pour laquelle, pour l'instant, tous les annonceurs n'ont pas déserté encore la plateforme. Et puis, il y a ceux dont on parle un peu moins souvent, qui sont des utilisateurs un peu particuliers, qui sont les relais d'influence. Et là-dessus, je crois qu'il faut prendre une minute pour essayer de bien comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Les relais d'influence, finalement, ce sont à la fois des individus ou des organismes qui relaient l'info, qui se servent de Twitter pour pouvoir informer et s'informer. Pour eux, en fait, Twitter, c'est un outil de travail. Et pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, il y a peu de raisons de déserter Twitter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible à Twitter. Mais là où ça devient vraiment absolument dangereux, c'est qu'aujourd'hui, à côté de ces relais d'influence, on va dire vertueux, appelons-les ainsi, il y a aussi des relais d'influence qui sont là pour relayer de la désinformation. De la désinformation à des fins économiques, à des fins politiques, à des fins idéologiques. Et pour eux aussi, Twitter, c'est devenu un outil de travail absolument incontournable. Mais eux, contrairement au premier dont on a cité, ce sont eux qui bénéficient à plein de la nouvelle politique générale d'entreprise sur les comptes certifiés dont parlait Olivier Lascar tout à l'heure, hein, ce petit macaron bleu dont parlait Olivier, qui fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où j'ai les moyens d'investir dans de la visibilité, dans de la notoriété sur Twitter, et croyez-moi, les organes de désinformation ne manquent pas de moyens économiques et techniques pour pouvoir le faire, eh bien aujourd'hui, j'ai la possibilité finalement de phagocyter ce réseau social Twitter au nom d'une sacro-sainte liberté d'expression à la Elon Muskienne qui me permet aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir des relais de désinformation et éventuellement de propagande absolument majeure sur ce réseau social. Et c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut être particulièrement vigilant.
Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, je vais citer cette étude de NewsGuard, qui est un spécialiste de la désinformation, qui a épinglé 25 comptes certifiés par Twitter Blue. Donc Twitter Blue, c'est la certification qu'on évoque, car contenant des informations fausses, trompeuses ou sans fondement, donc 25 comptes épinglés. Parmi ces 25 comptes, 10 avaient été suspendus avant qu'Elon Musk prenne le contrôle de Twitter, et ils ont été évidemment restaurés par Elon Musk qui prône cette liberté d'expression sans limite, avec le risque, et c'est la question que je vais vous poser, Olivier Lascar, bah de laisser un réseau social tomber aux mains de la désinformation. Si tout le monde quitte le navire, s'il faut quitter Twitter, c'est la question qu'on pose ce soir, faut-il quitter Twitter ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à rester sur Twitter ? Julien Pillaud évoquait le rôle des influenceurs, mais il y a LeBron James, par exemple, star du basketball, l'écrivain Stephen King, qui ont menacé de quitter Twitter. Mais si tout le monde quitte Twitter, est-ce qu'il y a le risque, effectivement, d'avoir une désinformation qui prend le dessus.
Bah si tous les gens vertueux quittent Twitter, on va les laisser seuls dans leur bac à sable. Ça peut être aussi une solution, mais je ne crois pas qu'on en arrivera à cette extrémité. D'une part, pour répondre à la question, c'est très difficile, effectivement, de quitter Twitter quand on a un certain type d'activité. Et là, je prends ma casquette de journaliste. Quand on est journaliste aujourd'hui, c'est une source d'information très importante. En tout cas, ça permet de remonter à la source de l'information. C'est une gare de triage formidable, Twitter. Et ça serait très compliqué de le quitter. Mais je parle au nom du journaliste. Un autre réseau social pourra parfaitement faire l'affaire. En revanche, je ne crois pas, moi, que Musk soit un idéologue. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre toutes ses billes, qui va mettre toute son énergie dans ce combat idéologique pour l'alt-right ou cette liberté d'expression. J'ai toujours pensé que ce combat qu'il dit pour la liberté d'expression, c'est du blabla.
Qu'est-ce qu'il veut faire de Twitter, Musk, selon
depuis
vous,
mon sentiment.
Vous qui avez écrit ce livre, encore une fois, sur Madame
ouais,
Musk.
C'est que Musk s'est acheté Twitter comme le font les capitaines d'industrie. Dans le temps, on achetait, c'est bien connu en France, on achetait des journaux, des magazines. Aujourd'hui, on achète du numérique. Et Twitter devient le bras armé de la communication au service de ses propres entreprises. Parce qu'il a une myriade d'entreprises. Et ce n'est pas du petit frottin. Parce que SpaceX, c'est quand même le taxi pour la Lune demain. Hein. C'est quand même, ça a été choisi par la NASA pour être l'alunisseur.
Ça soulève le risque de concentration de plusieurs mastodontes comme ça aux mains d'une même personne.
Depuis le début de la conversation, personne ne parle pour l'instant de régulation.
On va en parler.
Oui, mais enfin, écoutez,
pour l'instant,
la
on
question,
pose le constat.
Mais
et,
non,
et on s'interroge sur les solutions.
Une fois qu'on a essayé de positionner les questions de modèle économique, c'est ce qu'on a essayé de faire, aujourd'hui, de deux choses l'une. Où, effectivement, la régulation qui a été mise en place, qui est en train de se mettre en place en Europe, fonctionne. Et à ce moment-là, il y aura des garde-fous. Et la question n'est pas, si je peux me permettre, faut-il quitter Twitter, en tout cas. Mais va-t-on réussir à réguler, effectivement, Twitter ? Parce que on n'est pas aux États-Unis, on est en Europe.
La question se posera aussi aux États-Unis.
Écoutez, déjà c'est compliqué en Europe, laissons les États-Unis avec leurs problèmes et réglons les nôtres.
Alors en Europe justement, la régulation qui est prévue.
La régulation qui est prévue, bah, d'ores et déjà on a vu dans les derniers mois que la façon dont Twitter répondait aux premières demandes n'était pas extraordinaire. On a vu au contraire que Twitter avait particulièrement licencié les fonctions de modération. On a vu, ça a été dit par mes deux collègues, qu'il y a une augmentation de ce qui est fake news, comportement néo-nazi, complotisme, etc. etc. Ça a été identifié par un certain nombre d'éléments.
Bien sûr, propos injurieux.
Donc maintenant, la Commission européenne arrive à mettre en place ce qui est prévu.
Alors, ce qui est prévu, parlons-en. Le Digital Services Act.
Oui, c'est le Digital Service Act. Le Digital Service Act, il oblige effectivement à mettre en place des outils pour qu'il y ait à la fois un système de modération important qui se mette en place, que dès qu'un signalement est fait, les acteurs soient obligés de réagir, qu'ils anticipent les problèmes en évaluant les risques. Et là, on voit bien que les risques qui sont sur la table et qui proposent des solutions pour que ces risques soient limités, etc. Qui supprime les contenus illégaux, mais beaucoup plus que tous. Enfin, qu'il justifie ses pratiques. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui, en principe, répondre aux problèmes tels que nous sommes en train d'en parler.
Et ça, c'est prévu à partir de février 2024, mais...
Non, c'est prévu avant, parce que février 2024, c'est la mise en œuvre pour tout le monde,
d'accord,
pour les plus petits. Mais la Commission européenne a déjà commencé, parce qu'il y a tout un processus, si vous voulez, qui consiste à désigner qui sont les acteurs qui vont être régulés. Il va y avoir une régulation à deux niveaux. Les plus gros sont régulés au niveau de Bruxelles. Les plus petits, si je puis, enfin les autres,
d'accord,
sont régulés nationalement. Donc c'est un processus qui a déjà commencé.
Est-ce que Twitter peut échapper à ces règles-là ? Et pourquoi ?
Non, il ne peut pas y échapper.
D'accord.
Donc
ça va être régulé ?
Ça devra être régulé à partir du moment où les outils sont mis en place et se passent bien. Normalement, les problèmes que nous évoquons, alors pas 3 mois, mais d'ici 1 an ou 2, ne devrait plus exister, ou alors des procédures de sanctions commenceront à être mises en place.
Olivier Lascar, est-ce que vous êtes aussi optimiste ?
Ah, je suis pas dit...
C'est-à-dire que je suis effectivement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que Musk et Twitter devront respecter la règle commune. Ou alors, ils quittent le marché européen. C'est inenvisageable, parce que du point de vue de l'argent que ça représente et que ça rapporte au réseau social, ils ne peuvent pas se priver de cette manne. Il est plus important pour Musk et pour Twitter de rester en Europe que de laisser la porte ouverte à tous les propagateurs de fake news.
On risque d'avoir un deux poids deux mesures entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis ?
Ah, pourquoi pas, hein. Ça se serait vu en d'autres circonstances, non ?
Aujourd'hui, on a bien vu qu'il y avait deux poids deux mesures entre ce qui se passait en Europe et aux États-Unis, dans l'autre sens, quand Frances Haugen nous a expliqué ce qui se passait sur Facebook et Instagram. C'est beaucoup plus contrôlé du côté américain dans les contenus que ça ne l'est du côté européen,
d'accord,
parce que, effectivement, la contrainte politique jusqu'à présent était plus forte aux États-Unis.
Ce qui se passe avec TikTok.
Ça devrait se modifier. Ouais.
Avec TikTok.
Ce qui se passe avec TikTok aux États-Unis. TikTok aux États-Unis est de plus en plus sur la sellette. Et quand même, Biden commence à parler d'un bannissement de TikTok.
Pas pour les mêmes raisons.
Non, pas pour les mêmes raisons.
Julien Pillaud.
Oui, juste un petit élément de précision concernant le Digital Services Act. Alors effectivement, Joël Toledano a tout à fait raison. Pour les très grandes plateformes dont Twitter fait partie, évidemment, la mise en place est prévue pour 2023. Et effectivement, le procédé va être généralisé, le dispositif va être généralisé à partir de février 2024 pour l'ensemble des grands acteurs du net. Mais il faut comprendre que effectivement, en cas de sanctions graves et répétées, les autorités peuvent prononcer jusqu'à l'interdiction des activités de la plateforme récalcitrante sur le marché européen.
Ça prendra du temps.
Mais je répète ce que j'ai dit, c'est en cas de violation grave et répétée au règlement. C'est-à-dire qu'il y a des paliers au préalable. Et les paliers prévoient des sanctions, d'abord d'ordre monétaire, qui peuvent aller à concurrence de 6% du chiffre d'affaires annuel de la plateforme. Autant dire qu'à ce niveau-là, je ne crois pas que ce soit très dissuasif dans un premier temps, parce que lorsqu'on pèse des centaines de milliards, comme c'est le cas de la Galaxy Musk, ce qu'il faut regarder l'ensemble de son écosystème et pas uniquement la valorisation de Twitter, 6% du chiffre d'affaires d'une entreprise qui est aussi entre 3 et 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires les meilleures années, c'est pas quelque chose qui est de nature à vraiment, vraiment freiner une politique générale d'entreprise telle que celle qu'on a décrite en début d'émission. Donc moi, ma crainte, c'est qu'avant qu'on soit en mesure de pouvoir contrôler réellement les agissements de plateformes telles que Twitter, avec l'opacité qui sont les leurs au niveau de leur algorithme, mais également au niveau de leurs agissements et l'absence totale de modération qui prévaut actuellement, et qu'on soit en mesure éventuellement d'aller jusqu'à une interdiction sur le marché européen, je crois qu'il va se passer quelques années pendant lesquelles, en fait, Twitter va continuer à évoluer dans peut-être un sens un peu meilleur, mais sur la pente actuelle, ce serait plutôt vers un sens qui est une pente assez glissante, et avec tous les risques de désinformation dont on a parlé tout à l'heure.
Quelle solution alors, selon vous ?
La solution, malheureusement, elle est entre les mains aujourd'hui de la personne qui contrôle Twitter, c'est-à-dire Elon Musk. Je me souviens d'une rencontre au sommet entre Elon Musk et Thierry Breton, dans laquelle
le commissaire européen.
Absolument, le commissaire européen, dans laquelle Thierry Breton avait tenté de sensibiliser Elon Musk sur la nécessité que Elon Musk, néo-détenteur de Twitter, se mette en conformité avec les règles européennes qui étaient sur le point d'être promulguées à l'époque, ou qui venaient tout juste de l'être, en fait. Mais pour l'instant, si on observe et si on essaie d'interpréter peut-être les premiers signaux qui nous reviennent d'Elon Musk, c'est plutôt une fin de non-recevoir, en fait. Les bureaux européens de Twitter ont été vidés de leur substance, et jusqu'à présent, Elon Musk semble, en tout cas à première vue, prendre des décisions qui sont complètement orthogonales au dispositif tel qu'il a été pensé et bientôt appliqué au niveau européen.
Joël Toledano, Elon Musk va pouvoir faire ce qu'il veut parce que il est intouchable financièrement, de Twitter, évidemment.
Je pense que c'est plus compliqué des deux côtés. Je suis d'accord avec ce que dit Monsieur Pillot, c'est-à-dire que c'est la mise en œuvre effective du DSA, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de compliqué, etc. C'est vrai. Cela étant dit, dans un monde rapide dans lequel on vit, je ne crois pas qu'il sera possible au DSA Digital Service Act de survivre,
ouais.
Si vraiment TikTok, vous voyez le lapsus, c'est intéressant parce que en parallèle, je pensais à ce qui se passait aux États-Unis avec TikTok. Si vraiment le comportement d'Elon Musk est celui de parler toujours, je ne fais rien, il va y avoir une vraie remise en question générale de la politique et des moyens choisis. Et je pense que ce sera assez, alors comme observatrice, assez intéressant de voir ce qui se passe. Parce que c'est pas tenable quelques années. Je veux dire, le processus standard est effectivement celui-là. Moi, j'aurais tendance à penser, d'abord, que 6% plus je sais plus combien par jour si, en cas de carence, etc., ça commence à faire de l'argent. Et Monsieur Musk, il compte l'argent. Même si c'est pas grand-chose, je crois pas du tout que ce soit la même poche qui soit celle de ses différentes filiales. Et d'ailleurs, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on devient milliardaire, justement.
Et est-ce qu'il peut être sensible au départ de personnalités de Twitter? Parce que ce sont les utilisateurs qui font vivre Twitter. On a parlé des médias publics qui claquent la porte. Il peut y avoir un effet domino,
J'aurais tendance à penser qu'il est en train de jouer le changement de business model vers un modèle business model plus disruptif. C'est vrai que ce qui me fait penser à Fox News, qui est ce réseau d'extrême droite, qui est quand même apparu aux États-Unis dans un paysage télévisé où tout le monde connaissait les chaînes standards, et finalement, il a complètement déplacé le paysage audiovisuel Fox News. Et donc, je pense qu'il y a une stratégie éditoriale dans ce qui est en train de se produire, avec un pari économique qui n'est pas sûr d'être gagné. Donc il a ce problème, et qu'en face, j'aurais tendance à penser qu'il va faire semblant de mettre en place des choses parce qu'il ne pourra pas être frontalement opposé à ces règles. D'ailleurs, effectivement, on a entendu cette fameuse phrase que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais face à Thierry Breton, dans ce jeu de « qui est le plus menteur », il a dit « mais oui, je vais respecter la loi ». Je pense que ça va être moins caricatural que ce qui a été décrit.
D'accord.
Et que ça va, que vous aurez l'occasion de faire pas mal d'autres débats sur le sujet.
Olivier Lascar.
Écoutez, moi, je crois que l'Elon Musk d'aujourd'hui, est-ce que ça sera le même dans 3 jours ou dans 1 mois? Dans 3 jours, il lance sa fusée Starship qui, pour la première fois, va devoir faire le tour de la Terre. Si ça explose sur le pas de tir, ce qui n'est pas impossible, le château de cartes muskien va en prendre un coup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne sur le niveau de puissance auquel il est parvenu par une série de succès industriels, par une baraka assez formidable, mais la chance tourne. Et quand il va être fragilisé, Elon Musk, il s'est comporté de telle façon qu'il s'est fait de tels ennemis extrêmement puissants. Avec l'administration américaine, c'est terrible. Enfin, il est à 2 doigts de traiter Joe Biden de momie. Donc, ils n'arrivent pas à s'adresser la parole. Si demain, le Starship ne fait pas un bon décollage, la NASA aura très beau jeu d'aller voir du côté de Jeff Bezos et des autres entrepreneurs du privé spatial pour avoir d'autres solutions pour aller dans l'espace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut aussi faire brûler ses vaisseaux, quoi, hein, ouais, assez rapidement.
En tout cas, on a bien compris que c'était une affaire de gros sous. Et faut-il quitter Twitter? Pas sûr. En tout cas, il faut réguler Twitter. Y arrivera-t-on? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup à vous trois. Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir. Votre livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science ». Merci Joël Toledano, membre du Conseil national du numérique, professeur émérite d'économie, associé à la chaire gouvernance et régulation. Et Julien Pillot, merci à vous, enseignant-chercheur en économie et stratégie numérique à l'école de commerce INSEC. Merci à Arnold Assoa à la préparation de ce débat.